Bonjour Xavier Delaporte, vous voulez nous parler d'une rivière.
Oui,
c'est
bonjour,
la rivière enchantée.
Guillaume, bonjour à tous. Ça pourrait l'être, peut-être, ça aurait pu. Hier, j'assistais dans le cadre d'un très bon festival qui s'est déroulé près de Mâcon, qui s'appelle la Manufacture des Idées, à une discussion entre Jean-Christophe Bailly, philosophe, écrivain, qui a longtemps enseigné à l'École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage, à Blois, et Georges Descombes, architecte paysagiste genevois, que l'on connaît en France pour avoir notamment dessiné le Jardin des Halles à Paris, rue d'Aubervilliers, et la place nautique de Lyon-Confluence. Alors tous les deux ont longuement évoqué un projet réalisé par Georges Descombes à Genève. La commande exigeait de faire disparaître un long canal rectiligne pour redonner à la rivière qui est à l'origine de ce canal un cours plus naturel. Georges Descombes et son équipe ont fait deux choix tout à fait intéressants. Le premier était de ne pas détruire le canal, mais d'en faire autre chose, en l'occurrence une succession de jardins. Quant à la rivière, ils ont décidé non pas de lui dessiner un cours qu'elle suivrait, ça, avec les technologies contemporaines, on sait faire, disait Georges Descombes, et je pensais en l'écoutant aux merveilles technologiques que sont les bassins artificiels qui sont construits pour les compétitions sportives de kayak ou autres, où tout est modélisé par des ingénieurs pour produire chutes et tourbillons. Mais ce n'est pas de cet usage des technologies que Georges Descombes et son équipe voulaient avoir recours. Ils ont décidé de creuser une sorte de diagramme dans le sol. L'image employée par Georges Descombes est celle d'une plaquette de chocolat. Bon, c'est normal, il est suisse. D'une plaquette de chocolat avec ses carrés et ses rainures. C'est lui-même qui l'a dit. Un diagramme, donc, qui laisserait à la rivière la possibilité de créer son propre lit. Et il s'est passé ce qu'on espérait qu'il se passât. En quelques mois, la rivière a choisi son trajet. Le diagramme a progressivement disparu, laissant place à un cours qui n'était évidemment pas naturel, mais qui était au moins spontané. En écoutant tout cela, hier, j'ai eu une révélation. N'était-ce pas là une magnifique allégorie du début de cette présidence Macron ? Regardons par exemple le décret relatif du 24 mai aux attributions déléguées au secrétaire d'État chargé du numérique Mounir Majoubi. Les tâches qui attendent le nouveau secrétaire d'État sont nombreuses et importantes. Transformation numérique de l'État, politique d'ouverture et circulation des données, gouvernance de l'Internet, transformation numérique du travail, garantie d'éthique et de la vie privée dans les grandes plateformes, etc. On y trouve à peu près tout. Je ne pense pas que les attributions d'un secrétaire d'État au numérique aient été si ambitieuses, ce qui justifie à soi seul son rattachement direct au Premier ministre et non pas au ministre de l'économie, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Mais, à moins que je me trompe et que je n'ai pas bien lu ce décret, je ne vois pas une chose dans ces attributions. Rien ne concerne ce qui est au cœur de notre fonctionnement démocratique et qui concerne la fabrication de la loi. On ne voit rien de ce qui avait été inauguré par l'ancienne secrétaire d'État Axelle Lemaire quand elle avait porté sa loi pour la République numérique, à savoir utiliser le numérique pour co-construire la loi, pour prendre en compte l'expertise de la société civile, son inventivité et ses attentes. Ça n'était pas parfait, évidemment. Et d'ailleurs, à l'époque déjà, Axelle Lemaire avait dû batailler avec son ministre de tutelle qui était Emmanuel Macron. Mais c'était un début. De tout cela, il ne me semble pas rester grand-chose, et c'est là où l'histoire de la rivière prend tout son sens. Emmanuel Macron a voulu faire disparaître le grand canal rectiligne, celui du bipartisme, de l'ancienne manière de faire la politique, etc. Pendant sa campagne, il avait mis en avant d'autres manières de faire, dont on a déjà parlé ici, les méthodes agiles qui mettent en valeur l'intelligence collective contre des processus et des hiérarchies trop rigides. Il a mis en avant que son projet était une co-construction en évolution constante. Bref, on aurait pu croire qu'il y avait là l'expression d'une volonté de voir la rivière faire son lit elle-même. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, comme vous nous l'avez expliqué tout au long de cette matinale. Pourquoi ? Bon, il y a toutes les raisons que vous avez données, mais il y en a peut-être d'autres. Georges Descombes et Jean-Christophe Bailly ont évoqué hier les obstacles à cette idée d'une rivière qui creuserait son lit. Il faut que l'architecte accepte une sorte de retrait, qu'il accepte de laisser une forme se dessiner sans en maîtriser tous les aspects. Il faut aussi vaincre les résistances des technocrates de tout poil, à ce type de projet dont les formes ne sont pas a priori définies, à ce type de projet qui ne sont pas forcément très spectaculaires, ces technocrates qui veulent avoir l'impression illusoire de maîtriser toutes les coulées et tous les tourbillons. On savait depuis longtemps qu'il y avait de la politique dans l'architecture, mais jusque-là, je ne savais pas jusqu'à quel point. Alors là, j'aurais dû avoir une chute, mais je ne l'ai pas trouvée.
Une chute
mais
d'eau.
Pour être tout à fait en accord avec mon propos, je laisse aux auditeurs le soin d'en trouver une avec les cascades et les remous de leur imagination politique.